Les voix de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM Plus 91 FM.
Chers auditeurs, bienvenue dans les Voix de l'éveil sur Radio FM+. Aujourd'hui, nous abordons la méditation sous forme de lecture et comme pour l'émission précédente, lecture sur le yoga, je vous invite à vous laisser aller au son des mots et de la musique classique indienne qui marquera les pauses de cette émission. Parfois, certains textes sont source d'inspiration et d'éveil et c'est pourquoi je vous invite à y plonger sans résistance. Le texte qui suit est celui de Monique Villaine. La méditation est un domaine très vaste et comprend des étapes successives. La méditation simple, c'est un exercice psychologique dont le but est de développer l'attention. Dans tout travail, on médite dans la mesure où la conscience est fixée entièrement sur un sujet qu'elle ne quitte pas. Il n'y a pas de recette. L'état de conscience dans lequel vous êtes vous donne la capacité de fixation sur un sujet déterminé et sur tous ses aspects. Avec patience et persévérance, l'attention se fixe pendant un temps suffisant sur le sujet choisi. Par un examen calme et long pendant plusieurs jours, on connaît mieux son sujet. Ainsi, la méditation des philosophes. Dans les méditations simples, la pensée est en éveil et les sentiments jouent un très grand rôle. Il y a une répercussion sur le corps, car justement l'unité de la conscience et du corps est quelque chose d'extrêmement concret. Ainsi, la pratique de la méditation simple donne plus de finesse et de sensibilité des sens, indépendamment de la maîtrise, de l'attention qui est essentielle. La méditation sur soi-même. C'est le fameux « connais-toi toi-même ». Je croyais être formée d'un corps et d'une conscience. L'expérience hindoue m'a appris que j'étais une unité n'ayant d'existence que par ses aspects unis indissolublement, car si on les sépare, je meurs. Pour méditer sur soi-même, on ne peut prendre une partie de soi-même, ni l'ensemble comme cela d'un seul coup. Des supports de méditation sont nécessaires. Le symbolisme des chakras est un des supports possibles, symbole de l'unité à la fois physique et consciente. Ils sont répartis en trois groupes qui correspondent aux trois parties de notre corps et à trois étapes de la conscience. Brahma correspond à la partie du corps en dessous de la taille. C'est la base matérielle et la réalisation extérieure. C'est le siège, la base, l'inertie, l'équilibre. Vous pesez votre poids, petit élément qui montre que vous êtes unique et pourtant négligeable dans le cosmos. Puis vient Vishnu, correspond à la partie centrale du corps, au buste de la taille à la gorge avec le cœur. C'est le centre, la direction et le rayonnement. Ce sont les organes génitaux, les relations, le métier, la famille, l'humanité dont nous sommes une cellule. C'est l'épanouissement de la personnalité, la découverte de son vrai métier. C'est-à-dire faire descendre l'inspiration spirituelle dans la matière et dans la vie de tous les jours. Enfin, Shiva, qui correspond à la partie supérieure au-dessus de la gorge. C'est le sommet et l'ouverture vers ce qui nous dépasse, l'ouverture spirituelle. Pour Sri Aurobindo, la spiritualité est essentielle, pas comme nuage dans le ciel, mais comme quelque chose venant transformer la terre tout entière et en particulier le coin qui nous est dévolu pendant cette incarnation. Soit, toute la création est en nous. Les chakras sont en rapport avec des zones du corps, mais il n'y a aucune identification possible à aucun point de vue. Cependant, il y a des gens qui voient les chakras, donc pour eux ce n'est pas symbolique. Ils ont une impression sensorielle qui chez d'autres n'est pas développée. Méditer sur soi-même, c'est être conscient d'une zone de notre corps et non un point qui est un organe, et en même temps d'un aspect correspondant de notre conscience. Cette connaissance de soi progressive introduit une grande harmonie dans l'ensemble de notre individu. Cela conduit à faire enfin ce qu'on veut, être maître de soi-même, du moins plus largement que dans la vie ordinaire. Ceci peut être réalisé à chaque instant. Cela veut dire faire l'économie du « entre guillemets cinéma intérieur » qui marche toujours tout seul, hors de votre volonté et dépense beaucoup d'énergie. En apprenant à calmer le cinéma intérieur, vous faites l'économie de cette énergie et après l'avoir mise en réserve, vous en faites ce que vous voulez. Les dangers sont d'abord ceux qui accompagnent le succès. Connaissant vos mouvements de conscience avant les autres, la satisfaction que cela vous apporte peut être une fin et une clôture. Car il n'y a pas de fin au bout du chemin. C'est une route qui est indéfinie. Mais aussi la possibilité de rencontrer des visions quelquefois très belles, séductions et non-messages. Ce peut être un danger pour un artiste à l'imagination visuelle très développée, qui s'enferme dans un petit monde clos. Si les images sont belles, c'est que vous êtes dans une bonne attitude. Mais surtout, ne vous imaginez pas que cela représente la moindre valeur spirituelle. Le but de la méditation sur soi-même est de mettre dans nos mains la possibilité de manifester aussi complètement que possible ce qu'il y a de meilleur et de plus élevé en nous. Toute notre personnalité doit être le moyen d'expression de ce soi supérieur qui est là. C'est le sens de notre existence, c'est le chemin du bonheur qui n'est pas le plaisir. Cueillez les fleurs du chemin, faites des petits dessins, mais ne les prenez ni pour la fin, ni pour une réalisation supérieure. La méditation initiatique. Ces étapes sont la concentration, la contemplation et le silence mental. La concentration est la fixation complète de la conscience sur un point déterminé par des méditations préalables au point de s'identifier avec lui, c'est-à-dire à faire disparaître la distance entre le sujet et l'objet, c'est alors la contemplation. La méditation au-delà de l'objet est le silence ou vide mental. Il n'y a pas de procédé. Le maître est-il nécessaire? Comme instructeur désintéressé, il vous met sur le chemin, montre et indique les tensions, c'est-à-dire les craintes. Le maître, le vrai, vous laisse toujours libre. Il ne vous enseigne pas de procédé, ne vous dit rien. Il ne vous apporte que quelques conseils purement pratiques et vous devez y aller, vous essayer. Au début, on se sent abandonné, ce qui n'est pas vrai. Raconter, entendre le chemin, l'exercice d'un autre est intéressant comme exercice intérieur. Le travail profitable est notre véritable chemin que vous faites seul, vous-même. Chacun de nous est un modèle unique. Nous sommes très semblables et tous uniques. Pour se connaître soi-même, il faut garder une liberté totale et une sincérité complète. Ce qu'on voit dans l'examen de soi-même n'est pas toujours très beau ni très agréable, mais doit être vrai, car alors on a pleine conscience de ce qui a été fait et de ce qui est à faire, et personne ne peut le faire pour vous. Il n'y a donc pas de recette universelle. Ce qui vous bloque, ce sont les craintes ou les espoirs, les bons et les mauvais souvenirs. Les bons qu'on veut rappeler et les mauvais qu'on ne veut pas répéter. Si vous avez une très grande sincérité, si vous arrivez à oublier votre moi sous toutes ses formes, toutes vos préférences, vous pouvez trouver seul. Mais vous pourrez gagner beaucoup de temps si vous rencontrez quelqu'un qui vous donne le renseignement. Les supports de méditation peuvent aider. Ce sont des moyens de gagner du temps. Il est bon d'apprendre à méditer avec des supports différents et de ne pas s'attacher à l'un d'eux seulement. Les mantras en Inde sont les supports les plus simples. Ce sont des phrases, des syllabes ou des sons. Il faut s'exercer longtemps. Le son Om, indépendamment de sa signification, est à considérer comme symbole de ce qui est l'aspiration la plus profonde en vous-même et la plus élevée. Il suffira de prononcer ce son pour vous trouver très rapidement dans l'état voulu. L'atmosphère induit une attitude. Les dangers. L'éveil de la Kundalini est un phénomène réel, scientifiquement non résolu. Certes, nous avons des réserves de vitalité considérables en nous. Or, il existe des recettes pour les éveiller. Si elles sont éveillées d'un seul coup, c'est l'extase avec un choc nerveux et psychologique très grand, trop grand. Un surcroît colossal instantané d'énergie peut détruire les canaux de communication pour lesquels nous sommes faits. Il y a danger également de rechercher la méditation pour obtenir autre chose que l'équilibre et le perfectionnement de soi-même, c'est-à-dire l'ensemble du corps et de la conscience. La règle absolue des hindous après toute méditation est de bien se dire que ce que vous désirez obtenir comme transformation de vous-même, vous le faites dans le but d'être en meilleure harmonie avec les autres et pouvoir éventuellement les aider plus efficacement. Quand l'homme est arrivé au bout, ce qu'il a, ce sont des mains pour aider. Le Hatha Yoga vous apporte le perfectionnement du corps. La méditation peut y ajouter du point de vue conscience, un développement parallèle, quelque chose de beau. Thank you. Voici quelques commentaires d'Eva Ruchepol sur les préalables. À notre âge mental actuel, sans faire d'abord, on ne peut pas atteindre au préalable. Nous avons l'impression de mettre la charrue avant les bœufs en commençant à raffiner notre intuition à travers le corps. C'est à ce moment-là, quand on a fait un retour à cet archaïsme, que se révèle à nous la nécessité des préalables. Niyama et Yama, qui, sinon, auraient été imposés du dehors. On commence par avoir besoin de choisir ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on mange. Mais ce besoin est absent de notre forme actuelle. Il est assez singulièrement déroutant d'être obligé de pratiquer, de travailler l'archaïsme pour que nous vienne l'intuition. À ce moment, on inverse. On met les bœufs, puis la charrue. Nos religions, notre culture ont échoué à nous rendre tempérants. Nous avons une convoitise. Comment supprimer l'avidité, la convoitise sans autre compensation? C'est impossible. L'impasse, le malaise de notre civilisation déviée nous contraint à faire retour à l'archaïsme vécu, frôlé. Le comportement archaïque nous remet sur la voie, sur la méditation. La direction à prendre pour le retour est la reconnaissance du monde banal. À partir du moment où on entreprend quelques voyages, il faut s'assurer l'aller-retour, c'est-à-dire la manière dont on s'intégrera dans notre actualité, ou karma. Méditer, c'est se couper du monde extérieur. Si vous gardez cette attitude de coupure, vous n'arrivez qu'à développer l'orgueil. Avoir réussi ceci, cela, se sentir plus fort, plus important. La méditation doit donc se faire en aller et retour. S'élever aussi haut que vous pouvez en vous-même. S'inspirer de ce qu'il y a de plus profond. Mais il s'agit de le faire descendre en vous. Jusqu'au fond. Jusqu'au point où vous êtes assis sur votre chaise et porté par la terre. Quand vous allez vous lever et entrer dans la vie extérieure, il faut que vous apportiez le résultat de cette méditation dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'un événement merveilleux vous assurant l'entrée du nirvana, mais de quelque chose qui doit changer votre vie. On n'entre pas en méditation pour en sortir après, mais on profite d'un certain moment pour faire des exercices dans le but de l'appliquer extérieurement. Le Hatha Yoga comme la méditation n'est pas séparé de la vie. Il en est une partie. La parole de la Bhagavad Gita est « Tu as droit à l'action, mais pas au fruit de l'action ». Enfin, nous terminons par un texte inspirant de Thich Nhat Hanh, issu de son ouvrage « Vivre en pleine conscience ». La méditation, c'est la pratique du regard profond dans la nature de votre souffrance comme de votre joie. Avec l'énergie de la pleine conscience, avec la concentration, le regard profond dirigé vers la souffrance nous permet de voir les causes profondes de cette souffrance. Si vous pouvez maintenir vivante la pleine conscience et la concentration, alors le regard profond va révéler la vraie nature de votre douleur. Et la libération survient du fait que vous avez eu maintenant une vision profonde de la nature de votre douleur. La solidité, la liberté, le calme et la joie sont les fruits de la méditation. Pendant la journée, pour pratiquer la méditation, marcher chaque pas vous ramène au moment présent. Chaque pas vous permet de toucher ce qui est beau, ce qui est vrai. Chaque jour, contemplez le ciel, la terre, les arbres, la rivière pour pouvoir toucher ce qui est beau, ce qui est de la nature vraie et qui rafraîchit. Et ainsi, après quelques semaines de pratique, la joie sera quelque chose de possible. Vous pourrez dénouer bien des nœuds en vous-même. Vous pourrez transformer les énergies négatives en joie et en paix. Le Bouddha a dit ceci, « L'objet de vos pratiques doit être tout d'abord vous-même. Votre amour pour l'autre, votre capacité d'aimer une autre personne dépend de votre capacité à vous aimer vous-même. Si vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même, si vous ne pouvez pas vous accepter vous-même, comment accepteriez-vous une autre personne et comment l'aimeriez-vous? Il vous faut donc revenir à soi pour pouvoir réaliser la transformation. Chacun de nous est un roi qui règne sur un territoire très vaste à 5 composantes. La première composante de notre territoire, c'est notre corps qui est une véritable rivière, que nous ne connaissons pas bien. La deuxième, c'est la rivière des sensations. Chaque sensation est une goutte d'eau dans cette rivière. Il y a des sensations agréables, d'autres désagréables, et des sensations neutres. Méditer, c'est s'asseoir sur le bord de la rivière des sensations pour identifier chacune des sensations quand elle se produit. La troisième composante est la rivière des perceptions qu'il faut observer. Il faut regarder profondément dans leur nature pour pouvoir comprendre. La quatrième est la rivière des formations mentales. Enfin, la cinquième composante est la rivière de la conscience-connaissance. Notre territoire est vraiment très vaste, mais nous ne sommes pas des rois ou des reines responsables. Nous tâchons toujours de nous évader et nous n'exerçons pas une surveillance véritable sur notre territoire. Nous avons l'impression qu'il s'y produit des conflits énormes, trop de souffrance, trop de douleur. C'est pourquoi nous sommes très hésitants à retourner sur notre territoire. Notre pratique quotidienne consiste à nous enfuir. Si l'on dispose d'un moment, on va l'utiliser pour regarder la télévision ou lire un article de magazine, de façon à ne pas retourner sur notre territoire. Nous avons peur de la souffrance qui est en nous, de la guerre, des conflits. La pratique de la pleine conscience, la pratique de la méditation, consiste à revenir chez nous pour restaurer la paix, l'harmonie. L'énergie avec laquelle on peut le faire, c'est l'énergie de la pleine conscience. La pleine conscience est une sorte d'énergie qui est porteuse de concentration, de compréhension et d'amour. Si on fait le retour en soi pour restaurer la paix, l'harmonie, alors aider l'autre sera une chose beaucoup plus facile. Prendre soin de soi-même, rétablir la paix en soi-même, c'est la condition fondamentale pour aider l'autre. Pour que l'autre cesse d'être une bombe, une source de douleur pour nous et pour l'autre, il faut vraiment l'aider à désamorcer cette bombe. Pour apporter de l'aide, on doit avoir un peu de calme, un peu de joie, un peu de compassion en soi. C'est ce que l'on obtient par la méditation au quotidien, car la méditation ne se fait pas seulement dans la salle de méditation. Elle se fait aussi dans la cuisine, au jardin, lorsque l'on téléphone, quand on conduit une voiture, quand on fait la vaisselle. Et si vous faites comme cela 3 ou 4 semaines, suffisent pour transformer la douleur en vous, pour amener la joie de vivre, pour cultiver l'énergie de la compassion avec laquelle on peut aider celui ou celle que l'on aime. La pratique d'être là avec ce qui est beau, ce qui guérit, c'est une chose que l'on va faire chaque jour et c'est possible dans la vie quotidienne.
Les voies de l'éveil. Une émission présentée par Sarah Robert. Sur Radio FM+, 91 FM.